Salut, c'est Claire-Marine Béa. Je viens de lancer l'infolette Sous la fibre qui, chaque mois, va vous offrir des contenus supplémentaires autour des arts visuels, de la créativité, en plus de vous proposer plusieurs suggestions et coups de cœur culturels et de vous parler des coulisses du podcast. Abonnez-vous, le lien se trouve dans la description de l'épisode. Il y a mille et une façons de s'emparer d'un sujet. Une infinie de chemins qui portent en eux des questionnements semblables. Et s'il y a bien une chose qui me fascine et que j'admire chez les artistes visuels, c'est leur capacité à investir l'angle qui les appelle. Cette liberté et cette dévotion me bouleversent par leur puissance. Depuis le début du podcast Sous la fibre, j'affirme que derrière l'art se cachent des êtres vivants, animés de désirs et de défis, et leurs œuvres d'art sont des langages à part entière qui semblent toutes dissimuler une porte vers un nouveau sujet. Dans cette série de discussions nommée Transversale, je m'entretiens avec des artistes visuels œuvrant dans des disciplines différentes autour d'un thème, d'un sujet ou d'une réalité similaire qui traverse de manière singulière leur pratique. Vous écoutez Sous la fibre, le podcast qui donne une voix aux artistes visuels. Les deux artistes que vous allez entendre dans cet épisode possèdent la grande qualité de parvenir à creuser des sujets intimes, à tisser la toile d'un historique personnel, tout en invitant le public à y prendre part, de manière créative et réflexive. En premier lieu, Mie Van Damme, artiste pluridisciplinaire, investit les sujets profonds du trauma intergénérationnel, du deuil et du chemin vers la guérison à travers des sculptures et installations dont la symbolique frappe l'esprit et invite à l'introspection. Mie Van Damme raconte peut-être son histoire personnelle, elle qui crée d'ailleurs beaucoup avec sa sœur et sa mère, mais elle s'adresse autant à la mémoire des individus qu'à celle du collectif. Ensuite, Tania Lara Cazobon, à travers des œuvres textiles ornées de détails attirants et familiers, conçoit des cartographies sensibles où les frontières s'érigent davantage au creux des souvenirs et des expériences qu'à travers les démarcations géographiques traditionnelles. Ces œuvres faites de broderies, de tissage et de collage textile interrogent la manière dont on construit et habite les espaces. Les nouveaux territoires ludiques qu'elle imagine ouvrent eux aussi la porte à un art participatif qui tend la main à la spectatrice et au spectateur afin qu'ils se rencontrent. Mie Van Damme et Tania Lara Cazobon font partie de l'exposition « Tisser l'intime » qui se déroule au Centre culturel Georges Vanier du 29 février au 7 avril 2024 dans le cadre de Poste Invisible. C'est quoi ça, Poste Invisible? Je vous en ai parlé il y a 2 ans sur le podcast lorsque sa fondatrice, Mylène Lachance-Paquin, est venue aborder la réalité des femmes en art à travers un contexte historique et des chiffres parfois plutôt alarmants. C'est donc le grand retour de cette biennale qui met en lumière les pratiques artistiques des femmes et des personnes non-binaires. Pour mieux vous présenter la thématique de cet épisode qui fait écho à celle de la biennale et vous parler un petit peu de la programmation de cette édition, j'ai discuté rapidement avec Mylène. Ah, puis sachez que si vous écoutez cet épisode après le printemps 2024, l'incursion dans les univers des deux artistes sera tout aussi fascinante, croyez-moi. Salut Mylène, je suis vraiment contente que tu sois de retour sur le podcast.
Ben salut Claire-Marine, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau, c'est vraiment apprécié.
Ben oui, 2 ans plus tard, Poste Invisible revient pour une 2e édition. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le milieu des arts visuels. Rapidement, là, j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi l'état des lieux pour les femmes en art? Est-ce qu'il y a eu des évolutions positives? Qu'est-ce qui se passe pour les femmes en art en 2024?
Bien, selon les données qu'on a comptabilisées récemment, Il y a une amélioration dans le nombre de femmes représentées en galerie. On se basait encore une fois sur les galeries de l'AGAC, donc l'Association des galeries en art contemporain. Mais on notait déjà en 2022 qu'il y avait 34% des artistes qui étaient des femmes. Et là, quand on fait la comparaison en 2024, on est à 42%. Donc, il y a quand même une augmentation importante qu'on note en seulement 2 ans. Tu sais, si on continue dans ce sens-là, ça va bien aller. Sous cette aura très positive, il y a quand même des choses qu'on note. Il y a des galeries qu'on voit qu'il n'y a aucune amélioration. Il y a des galeries montréalaises qui représentent 9% d'artistes femmes. Il y a des galeries qui représentent... Tu sais, c'est vraiment pas toujours... c'est pas un portrait qui est homogène du tout. Il y a des galeries qui sont à, bon, 100% d'artistes femmes, c'est vraiment, on est ailleurs, mais il y a de l'amélioration, il reste du travail à faire, c'est certain. Au niveau des foires, ben, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Il y a des foires qui mettent en ligne leurs propres statistiques, puis il y a des grosses foires qui le font, puis il y en a d'autres qui le font pas. Je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à comptabiliser ça, ils sont pas à l'écoute de cette situation-là, peut-être. On peut pas deviner, mais... On pense à la foire Untitled en 2023, donc qui était dans le cadre de Art Basel Miami, tu sais, qui prenait le temps de mentionner dans son communiqué de presse que 60% des œuvres présentées étaient signées par des artistes femmes ou personnes non binaires. Donc c'est intéressant déjà de voir qu'il y a des foires comme ça qui sont conscientes que c'est important de mentionner publiquement leur intérêt pour faire une place au minimalement paritaire.
Au niveau du musée, je sais pas si tu as des statistiques, mais moi j'ai remarqué en tant qu'amatrice d'art qu'on a vu quand même plusieurs rétrospectives dédiées à des femmes, des grandes expositions dédiées à des femmes. Je pense, si on parle du musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a eu Marisol qui méritait cette très grande et très belle rétrospective. Mais je pense que c'était l'année passée, il y a aussi eu l'artiste canadienne Sherry Boyle qui avait une exposition quand même importante aussi au musée des Beaux-Arts. Fait que c'est le fun, on les voit davantage. On n'est plus juste dans les expos blockbusters sur Picasso et toute sa gang. Ben, tu sais, il y en a encore, puis on le sait que ça roule. Ça génère beaucoup d'argent. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau de la métropole, il y a plusieurs institutions qui ont compris qu'il y a de l'espace, il y a un public pour ça.
Absolument. C'est les pratiques des artistes femmes d'hier et d'aujourd'hui qui sont extrêmement riches, qui sont témoins d'une époque puis d'une histoire de vie qui est fascinante. De voir aussi, par exemple, dans le cas de Marisol, à quel point elle avait été invisibilisée à partir du moment où elle ne correspondait plus à ce qui était attendu du milieu, c'était vraiment c'était important de le mettre en lumière, puis ça a été bien fait, je trouve. On n'essayait pas de gommer les coins de l'histoire, ou tu sais, c'était très dans la vérité comment c'était transmis. J'avais entendu à propos de cette exposition-là en particulier que c'était un beau risque qu'avait pris le musée de commencer la saison automnale avec une rétrospective de cet artiste-là moins connu du grand public. Puis, il y avait un moment donné, j'ai eu l'occasion de discuter avec Stéphane Aquin à ce sujet-là. Puis, il me disait que pour lui, c'était pas un risque, que c'était juste normal de faire ça puis de mettre cette femme-là en lumière à ce moment-là. Puis, c'était pas tant parce que c'était une femme ou pas une femme, juste parce que cette carrière-là était vraiment monumentale puis qu'elle avait droit, évidemment, à son moment d'être présentée. Fait que c'était intéressant, je trouve, de voir de sa part que pour lui, c'était juste naturel puis c'était dans une perspective d'inclusion, mais c'était comme si c'était quelque chose qui n'était pas forcé. Fait que c'est tant mieux. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de belles, tu sais, au MAC en ce moment aussi, François Sullivan également, tu sais, il y a beaucoup d'attention qui est offerte à des artistes femmes, des collectifs d'artistes femmes qui prennent position aussi. Je pense que c'est inspirant, puis ça fait du bien aussi, ça rafraîchit un peu ça dépoussière, je pense, l'image qu'on peut avoir du musée qui va toujours aller vers les mêmes artistes connus et déjà tellement diffusés. Donc c'est bien heureux.
Oui, c'est important aussi de diffuser cet imaginaire des femmes et des personnes non-binaires, ou en tout cas qui ne se considèrent pas hommes. En plus des personnes marginalisées, ça fait partie du contexte sociopolitique dont on a hérité et dans lequel on vit. Donc c'est une bonne nouvelle que Poste Invisible revienne. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette deuxième édition? Et surtout, est-ce que tu veux me parler de la thématique qui unit dans le fond les activités, les expositions. La thématique, c'est territoire frontière. Comment l'aborder?
Oui, ben en fait, l'idée de territoire frontière, ben déjà territoire est au singulier, puis frontière est au pluriel. On peut ici penser au fait que le corps de la femme, on peut le voir comme un territoire qui est à soi et dont on veut baliser les frontières et l'accès. Parfois, c'est respecté, parfois, ça l'est pas. On peut penser à tout ce qui se passe avec l'avortement. Il y a plein d'accès à notre corps qui sont bafoués, qui sont pas respectés. Mais aussi, dans une perspective un petit peu plus large, la terre comme territoire qui a aussi été exploité, qui est aussi objectivé, qui s'est vu être approprié en tout ou en partie. Donc, sur laquelle il y a des frontières qui, elles, créent des divisions, des distanciations entre des groupes. Puis l'idée de cette édition-là, le souhait, vraiment, c'était de profiter de ce moment-là, biannuel, pour essayer d'outrepasser les frontières en allant à la rencontre de personnes qui ont des valeurs communes, malgré la distance, dans le fond. Donc, l'idée, c'était d'essayer de bien humblement de tenter le pouls de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, en France, au Mexique, aux Bahamas, pour aller tendre l'oreille à des femmes là-bas, savoir ce qui se passe dans leur milieu. Puis les expositions partent dans différentes directions, toujours avec ce noyau central-là du territoire et des frontières.
Je vais pouvoir mettre le lien vers tous ces renseignements dans la description de l'épisode. Comme ça, les gens intéressés, ils vont pouvoir être interpellés par les expositions aussi. On a plusieurs qui ont lieu à Montréal, mais aussi à l'étranger. On va entendre aujourd'hui dans cet épisode, elles font partie d'une des expositions de Poste Invisible qui a lieu à Montréal. L'exposition s'appelle « Tisser l'intime ». Ça se passe au Centre culturel Georges Vanier du 29 février au 7 avril. J'avais envie de te donner un petit peu, moi, comment je l'ai ressenti, la thématique à travers leur travail. Je trouve qu'avec Tania Lara Casaubon, on est vraiment dans le territoire et les frontières de manière relativement littérale. Il est question beaucoup de cartographie dans son travail, mais de revisiter autrement les lieux que forge notre monde émotionnel et rationnel. Tandis qu'avec Mi Van Damme, il est vraiment question de frontières, de nos héritages traumatiques, familiaux, émotionnels, culturels, puis au final qui viennent former un territoire intérieur et collectif. Donc, tu disais tantôt que c'est quelque chose qui a une portée, on peut le prendre au micro, on peut le prendre au macro, territoire frontière. Est-ce que j'ai bien saisi cette lecture de la thématique?
Mais oui, absolument. Cette exposition-là collective, donc c'est l'intime, elle souhaite aborder à travers notamment la pratique de ces deux formidables artistes, comment notre territoire géographique dans lequel on est va avoir un impact sur la personne qu'on devient, sur les liens qu'on tisse avec les gens qui nous entourent, comment ça a aussi un impact sur notre identité. Ce qu'on retrouve dans la pratique de ces deux artistes-là et dans celle des autres artistes qui vont prendre part à l'exposition, c'est vraiment une authenticité criante. C'est des personnes qui laissent transparaître leur bagage personnel, mais aussi collectif. Puis je pense qu'en contemplant leurs œuvres, on est à même de comprendre à quel point on fait toutes et tous partie d'un tout. Et donc, le bagage que porte Mivan, on est à même de le comprendre. Il peut faire résonner des parties de notre histoire aussi familiale. Et on va de même pour la pratique de Tania. Donc, je pense que ça va être une exposition qui va faire résonner différents axes en tant que femme, mais aussi en tant que personne qui cohabite sur ce territoire bien vaste et complexe. Oui, ça va être, je pense, une exposition très intéressante avec des approches plurielles, mais complémentaires.
Mivan, est-ce que tu aimerais me parler un petit peu de comment l'art est entré dans ta vie?
J'ai commencé l'art avec la danse contemporaine. Alors, j'ai étudié la danse tous les jours de ma vie. On était un groupe qui s'exprimait beaucoup à travers notre corps et puis apprenait à être en relation puis connecté avec notre corps et puis comment on pouvait s'exprimer à travers le mouvement. Éventuellement, j'ai décidé un peu de me rediriger vers les arts visuels. Après le secondaire, j'ai décidé de m'inscrire dans un programme d'art visuel à College Dawson. Alors, c'était une manière de pouvoir s'exprimer très différemment, très à travers la matière. Alors, j'ai développé un peu mes techniques de peinture, picturale, la couleur, la composition et tout ça. Après, je me suis inscrite en fait dans un certificat en histoire de l'art. Là, c'était très différent. C'est plus de langage vraiment matériel ou corporel, c'est vraiment l'écrit, la théorie. J'adorais le contenu, j'adorais apprendre sur l'histoire de l'art, mais je pense que d'écrire comme 10, 20 pages, c'était beaucoup trop. J'ai vite réalisé qu'il fallait que je retourne à la matière. Alors, après, je me suis inscrite en art visuel à l'UQAM. J'ai connecté tout de suite avec la sculpture. Et quand j'ai rentré dans l'univers comme matériel du médium de la sculpture, ça a été une révélation vraiment énorme pour moi de travailler l'espace, travailler le 3D, travailler la matière, puis de l'amener vraiment dans un contexte plus abstrait aussi, puis de pouvoir jouer avec ces matières-là, ça a été vraiment comme un énorme coup de cœur. C'était vraiment un moment d'exploration, de recherche plus intérieure, parce que je vivais des choses aussi personnelles, familiales, en même temps que mon baccalauréat. Alors, il y avait beaucoup de choses qui se reliaient dans ce que je voulais dire dans mon art, dans mon vécu, dans ce que je vivais. Alors, c'était pas juste au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif.
Tes intérêts sont toujours multiples. Tu travailles notamment l'installation et la sculpture. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ces disciplines et qu'est-ce que ça te permet de dire que, par exemple, la peinture ou la vidéo te permettent moins?
Même si parfois je vais travailler la vidéo ou la photographie, il y a toujours une notion d'espace, de matérialité, de 3D. Tu sais, il y a vraiment, ouais, c'est ligne directrice qui dirige un peu ma manière de voir mes projets artistiques puis comment je les conçois. Mais c'est très intuitif aussi. C'est pas quelque chose que je calcule genre, ah, OK, je vais mettre une notion d'objet. Et la sculpture, pourquoi j'ai tellement eu un coup de cœur pour ça, c'était vraiment d'être connecté avec la matière. C'est quelque chose qui est vraiment magique, qui est l'amener où que moi j'aimerais, puis de vouloir réfléchir aussi la matière comme étant un concept. J'ai beaucoup travaillé sur les notions de transparence et d'opacité. J'ai travaillé plusieurs matériels comme le silicone, le plexiglas, la vitre. J'ai commencé à m'intéresser en fait à les matières transparentes comme étant notion de notre vulnérabilité. Et puis, à l'opposé, il y a l'opacité. Pour moi, ça représente un peu nos mécanismes de défense. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui existe entre les deux, puis comment les deux, en fait, sont interreliés. Puis, c'est pas parce que c'est l'opacité, ça devient tout de suite quelque chose de négatif. Il y a aussi quelque chose qui existe dans cette opacité.
Quand tu parles d'opacité versus de transparence, c'est vrai que dans ton travail, il y a souvent cette notion, peu importe le médium que tu utilises. Ça me fait beaucoup penser aux frontières émotionnelles qu'on érige entre soi et les autres, parfois même à l'intérieur de nous-mêmes. Mais justement, dans ton travail multidisciplinaire, tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui est la transmission des traumatismes intergénérationnels, à la mémoire, aux souvenirs et au processus de guérison. Comment ces thématiques, elles se sont imposées à toi?
J'aime bien ce terme « imposé » parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'habitait énormément. C'était durant le baccalauréat. Mon père était très malade et puis ça m'a amené en fait à réfléchir à tous ces concepts. Parce que je vivais des choses très intenses au niveau émotionnel, familial, puis ça m'a amené en fait à moi-même me poser la question « qu'est-ce que ça voulait dire en fait de... » Ouais, ces mémoires qui me sont transmises, qui m'appartiennent pas. Comment aussi les autres personnes vivent ces mémoires qui appartiennent à une mémoire familiale, qui appartiennent à d'autres générations. Et moi, vivant dans une famille qui a vécu la guerre, dont la guerre du Vietnam, puis c'est mes parents qui ont vécu la guerre. Et puis, il y a des répercussions assez, ça peut être très subtil, autant ça peut être très évident. Mais je pense que pour des générations suivantes, ça pose beaucoup de questions sur des notions d'identité, sur des questions d'héritage qu'on reçoit. je suis juste une personne très sensible et très comme curieuse. Et puis, puisque je vivais ça sur le moment, ça m'a juste amenée, en fait, à vouloir poser la question d'une manière plus large, puis pas juste personnelle à moi, même si le moteur était personnel. Ouais, de parler de guérison, de transmission intergénérationnelle, et c'est des sujets incroyablement complexes qu'on arrive encore pas vraiment à savoir c'est quoi la clé, tu sais.
J'apprécie le pont que tu bâtis entre ton histoire personnelle, des histoires très intimes. Tu parlais notamment de ton identité, ton héritage familial, mais ce sont des sujets tellement universels, même si on a chacun notre histoire personnelle avec ses propres nuances. J'y vois peut-être quelque chose d'un peu thérapeutique, autant pour toi que pour le public. D'ailleurs, tu désires vraiment interpeller les spectatrices et spectateurs de ton travail sur leur propre complexité, vulnérabilité. Et c'est vrai qu'à travers l'art, il y a comme, tu parlais d'espace aussi tantôt, un petit peu de confronter quelque chose qui est un sujet immensément douloureux, chargé.
Je pense qu'à travers mes projets comme My Vulnerability is Not for Shaming ou Unveiling, des vidéos que j'ai faites avec ma mère et ma sœur, ou que j'ai invité nous trois à vouloir se questionner qu'est-ce que ça veut dire d'être vulnérable envers soi, puis envers les autres, et qu'est-ce que ça veut dire de se dévoiler, et pourquoi parfois c'est tellement difficile de parler et de se dévoiler et de se montrer vulnérable. Et dans cette vidéo, en fait, je joue avec différents filtres de transparence. On voit des clairs et des flous, une espèce d'effet un peu glacial qu'on ressent à travers l'image. Puis ensuite, j'avance avec la caméra où cette glace se brise un peu, mais en fait, c'est comme d'une manière très, très, très subtile. Venant d'une famille où on n'a pas vraiment appris à se montrer vulnérable ou à parler, tout simplement. Il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup de moments d'incompréhension parce qu'il n'y avait pas de communication qui était présente dans notre dynamique familiale. Alors, ces questions-là m'ont beaucoup habité durant cette époque. Et puis, je me suis dit que c'est aussi non seulement culturel, mais aussi ça dépend aussi pour chaque famille comment tu apprends à être confortable avec ta vulnérabilité. Quand j'ai montré ça, je pense que tout de suite, quand tu te montres vulnérable à travers une œuvre, quand tu parles de sujets qui sont sensibles, tout de suite, il y a une connexion qui peut se faire avec le public, comme si je tendais la main, ou j'ouvrais une porte, en fait, à pouvoir en parler. Et j'ai eu des discussions très profondes avec certaines personnes, et même moi, je me dis « Oh mon Dieu! » Je suis comme étonnée, mais en même temps, je trouve ça incroyable parce que c'est ça qui est le plus riche au final, quand on partage nos torts, nos questionnements, à comment ça existe dans la vraie vie. Il y a aussi comme une autre œuvre que j'ai exposée sur la Place des Arts qui s'appelle « Exposer mes mémoires ». C'est aussi une collaboration avec ma mère et ma sœur où que j'invite nous trois à écrire en fait sur notre processus de deuil après la perte de mon père. Et cette œuvre, elle est exposée en peint public. Et le fait que j'ai dévoilé, en fait, ce processus dans un lieu à l'extérieur. C'est vrai que, par exemple, dans une galerie ou un musée, c'est public, mais tu as déjà un contexte qui est donné. Pour moi, ça m'a invité, en fait, à réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire montrer ce processus de deuil en plein milieu de la place publique. C'est quoi la relation de cet espace intime sur ce lieu central à Montréal? Et comment une personne peut rentrer dans cette intimité et comment elle reçoit. On va tous passer par là. Ce qui veut dire que c'est quand même quelque chose qui est assez universel, même si c'est une expérience qui est très intime et personnelle. En fait, enlever ce tabou autour du deuil, parce que c'est quelque chose que tout le monde va passer à travers. Et comment on peut arriver à créer des moyens de soutien et des manières, des espaces de pouvoir en parler. Quand j'ai exposé cette œuvre, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui se sont dévoilées. C'était merveilleux.
Oui, cette œuvre dont tu parles, Exposer mes mémoires, qui a été exposée donc à la Place des Arts en 2021. En fait, il s'agissait de trois colonnes transparentes où tu as déposé des pierres d'ardoise sur lesquelles on pouvait lire, graver des mots, des phrases ou même des bribes de poèmes qui proviennent des écrits de toi, ta maman et ta sœur. Tu parlais de tabou, j'ai trouvé que c'était vraiment un mot-clé. Je me demande aussi, qu'est-ce que ça fait de travailler avec ta famille proche, avec ta mère et ta sœur? Comment elles ont vécu ça, elles, en tant que non-artistes aussi, de t'accompagner là-dedans?
On est très proches. Ma sœur et ma mère et moi. Notre relation a quand même beaucoup évolué après la perte de mon père. On a eu en fait cette volonté de vouloir comme se soutenir et vraiment de vouloir être présente pour l'une et l'autre. Mais dans notre dynamique familiale, c'était vraiment nouveau de vouloir offrir en fait cette communication. Puis je pense qu'à travers des projets d'art, ça a beaucoup aidé en fait à ouvrir ses portes, ses possibilités. Fait que ce cadrage artistique puis ce contexte artistique a vraiment aidé en fait à alléger un peu les choses. Je sais pas comment dire, même si c'était très profond. Déjà, elle m'encourage énormément. Dans mon art, c'est vraiment incroyable. Alors, de vouloir faire ça avec moi, c'était vraiment magnifique. J'ai tellement de gratitude envers elle. Puis autant pour moi, c'était comme une recherche. Je ferais aussi pour elle de vouloir questionner un peu ça pour elle-même. Tu sais, parfois, on a des intentions en tant qu'artiste de vouloir creuser très, très, très profond, mais tu sais, il y a aussi une responsabilité de donner un soutien et un cadrage qui est sécuritaire, parce que quand tu viens parler de trauma ou bien de, il y a aussi quelque chose de, ouais, très vulnérable, fait qu'il faut aussi être conscient de ça. Fait que pour moi, c'était pas nécessairement d'aller gratter comme des blessures. Le but, c'est pas de complètement juste les mettre à nu ou les dévoiler. Non, c'est de vouloir, en fait, explorer ensemble dans ce processus et de voir aussi comment ça peut s'exprimer à travers une œuvre. Mais cette histoire de famille rejoint aussi d'autres histoires qui peuvent être différentes, mais aussi similaires.
Quand je tombe sur des œuvres dont il émane certaines émotions, certains traumas, certaines, parfois, t'es des sujets plus sombres, plus difficiles de la réalité humaine, on se sent validé. C'est comme si cette émotion ou ce défi, ce trauma, on parlait de deuil, c'est sûr que c'est un deuil précis, celui de ton père, mais qui peut faire écho à ceux des autres. On se sent, en tant qu'amatrice, amateur d'art, on se sent validé par une œuvre qu'on rencontre parfois, par une atmosphère qui est créée. Puis ça s'explique pas toujours, hein, c'est pas toujours très rationnel, ça peut être quelque chose d'assez clair, d'assez expliqué, orienté, comme ça peut être quelque chose de très abstrait, où est-ce qu'on se dit « ok, là c'est ouf, ça me rappelle telle tristesse ou tel moment ». Donc c'est vrai que ça peut aider. Est-ce que créer vous a aidé à passer à travers ce deuil?
Pour moi, oui, définitivement. Est-ce que c'est le seul facteur? Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail personnel. Moi, dans mon cheminement de guérison, c'est beaucoup de connecter, en fait, avec mon art. Tu sais, je suis une artiste, c'est comme ça que je m'exprime. J'aimerais croire que ça inspire ma mère et ma sœur. Elles sont dans leur propre chemin de guérison, puis ma mère, c'est à travers la méditation, ma sœur, c'est à travers aussi une pratique somatique. Le fait que je les invite beaucoup dans mon processus, il y a peut-être quelque chose d'inspirant et de validant aussi. Fait que je pense que oui, je sais pas. La notion du mouvement revient dans mes projets. Ma pratique en danse a toujours été très omniprésente, mais je ne savais pas comment le réintégrer. Je ne savais pas... Ouais, je voulais que ça soit profond. Et en fait, quand j'ai, J'ai commencé ma thérapie qui s'appelle Somatic Experiencing, qui est une thérapie qui se concentre beaucoup sur le corps. Fait que c'est de savoir comment le corps est connecté à notre esprit, puis comment on fait pour les aligner ensemble. Fait que c'est pas sur le rationnel, c'est vraiment une pratique qui écoute le corps, comment il s'exprime à travers les pensées, puis comment les traumas sont restaurés dans notre mémoire. Puis il y a toute cette pratique qui nous permet de pouvoir accéder à notre mémoire traumatique à travers le mouvement, puis à travers la voix, puis par aussi en écoutant comme directement comment le corps s'exprime au quotidien. Ça, c'est tout aligné. J'ai un nouveau projet sur lequel je travaille qui s'appelle « Se connecter de l'intérieur vers l'extérieur ». Alors, j'ai invité des artistes de danse, 4 artistes de danse, afin de réfléchir en fait la guérison collective. Et aussi, j'ai intégré des objets de solidarité. C'est inspiré en fait de la pratique du BMC qui s'appelle le « Body Mind Centering » de Body Bembridge. Elle, c'est une pionnière en fait des pratiques somatiques, puis qui a beaucoup travaillé avec des danseurs-danseuses pour arriver en fait à comprendre comment le corps s'exprime à travers l'esprit, puis comment l'esprit s'exprime à travers le corps. Fait que je parle beaucoup de guérison, mais dans ce projet-là aussi, je parle beaucoup aussi des réalités des femmes de couleur. Fait que j'ai décidé de vouloir, c'est ça, réfléchir aux différentes dynamiques d'oppression.
C'est intéressant, je vois vraiment que toutes tes réflexions qui mêlent toujours un peu à la fois la créativité, la pratique des arts avec la psychologie humaine, sont comme passés un petit peu de la tête au corps. Puis c'est vrai que le corps est le lieu où se logent les traumatismes, où se loge la joie, où se loge la résistance et aussi la beauté aussi de pouvoir l'utiliser en collectivité. On va retourner un petit peu en arrière. On va parler d'une œuvre qui date de 2018. Il s'agit de Héritage pathologique. C'est donc l'installation que tu présentes dans le cadre de Poste Invisible, de l'exposition qui s'appelle Tisser l'intime. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de cette installation qui nous parle de la transmission de l'héritage inconscient des blessures du passé? Est-ce que tu voudrais nous la décrire? À quoi elle ressemble? Quelle est sa portée?
C'est en fait une sculpture où il y a 4 formes abstraites. Il y a une structure de métal qui est autoportante et au milieu, il y a une masse noire. Ça rappelle un peu comme un cœur ou comme un organe. C'est accroché par une chaîne. Il y a la chaîne qui traverse les 3 autres formes. Puis les 3 autres formes, c'est fait en silicone et c'est aussi des formes très organiques, abstraites. La chaîne traverse les formes transparentes. Et chaque forme, en fait, symbolise un membre de ma famille. On a des traumas qui sont transmis de manière inconsciente, mais comment on fait aussi pour être pas conscient nécessairement, parce que c'est pas contrôlable, mais que ça soit pas en fait juste une fatalité, que ça soit pas comme « Ah, en fait, ça fait partie de ma famille, c'est comme ça, puis il n'y a pas de solution ». Parfois, quand on n'arrive pas à comprendre d'où ça provient, et surtout quand tu n'as pas la chance d'avoir accès à cette histoire de famille, ça peut être aussi, t'arrives pas à comprendre en fait pourquoi parfois tu as des conditions psychologiques ou ouais, des manières de percevoir des choses parce que c'est des héritages pathologiques. Pour moi, c'était une manière de pouvoir voir que c'est possible aussi d'enclencher un processus de guérison puis de pas juste s'asseoir sur le fait que c'est comme ça. On peut aussi arriver à briser un peu ce cycle vicieux. Il y a toujours une personne peut-être qui va avoir le courage de confronter puis de poser des questions et de vouloir se connecter de plus en plus avec ton intériorité, mais avec l'histoire de ta famille aussi, puis de mieux comprendre en fait ces dynamiques se sont créées à travers le temps, l'histoire et le vécu de chaque personne puis chaque membre de ta famille. Comment on peut briser un peu ce cycle puis pas de le voir comme étant quelque chose qui s'arrête, qui t'est imposé puis que tu peux rien faire avec, que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton histoire familiale et comment on peut traverser ça pour l'amener ailleurs et de pas le porter, c'est ce fardeau un peu, c'est lourd.
Ce que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est qu'on est vraiment, on explore le territoire de l'intime, on plonge creux, on va vraiment brasser, regarder en face des choses qui sont foncièrement inconfortables et que la plupart du commun des mortels, on voudra davantage tomber dans le déni, mais tu refuses toujours une forme de fatalité, que ce soit dans Héritage pathologique ou dans Exposer mes mémoires, qui était donc l'œuvre publique à la Place des Arts. T'invites toujours les gens à avoir la réflexion de l'opportunité de se reconstruire. Pour toi, c'est important quand même de porter cette lumière, même si tu vas vraiment toucher à des sujets très complexes.
Ah oui, je pense que c'est mon intention première, de pas en fait s'arrêter sur le négatif. Cette notion de reconstruction, d'apprendre mieux à se connaître pour mieux se former, se reconstruire, c'est quelque chose qui est fondamental, en fait, dans ma recherche. Et c'est ça, en fait, que j'invite au public à comprendre, à connecter avec mon art. C'est un peu cliché, peut-être, mais il y a toujours de l'espoir pour être capable de pouvoir avancer, tout simplement. Un processus de guérison, c'est incroyablement difficile et c'est confrontant. On a un peu cette pensée magique que ça va se faire après un an avec une séance de thérapie, mais non, c'est un engagement, une implication, une volonté envers toi-même et cette lucidité que tu dois t'accorder. C'est pour ça que je dis processus de guérison, puis pas juste guérison, parce que c'est pas une finalité, qui est un work in progress pour toute ta vie. Heureusement, malheureusement, ça nous permet de grandir. Mais Louise Bourgeois parle énormément de sa dynamique familiale. C'est elle qui m'a ouvert la porte à être confortable de parler de ma famille, à dire « Ok, même si c'est très personnel, eh ben, tu peux faire de l'art avec ça. » Après, il y a Grada Kilomba, qui est une artiste multidisciplinaire, puis qui a aussi des études en psychologie, qui m'a beaucoup inspirée, en fait, à parler de collectivité, de communauté, puis de guérison à travers des installations qui sont vraiment très poétiques. Puis elle parle beaucoup aussi de la colonisation, des traumatismes à cause de la colonisation, fait que c'est des sujets qui m'intéressent.
Il y a une autre de tes œuvres qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est l'œuvre qui s'appelle « In Denial, I'm Not Sick », dans laquelle tu interroges le mécanisme du déni. Veux-tu me parler un petit peu de cette œuvre?
« In Denial, I'm Not Sick », c'est une œuvre qui est installative. C'était quand même une œuvre qui était très performative parce que j'ai écrit « I'm Not Sick » sur du papier plastique à répétition pendant 2 mois à tous les jours, I'm not sick, que j'ai ensuite superposé avec de la cire pour donner un peu cet effet de profondeur et de répétition, de créer cet effet aussi incompréhensible et un peu brouillé. Durant ce moment-là, je réfléchissais beaucoup à c'est ça, les mécanismes de défense, puis surtout celui du déni. Et pour moi, c'est un peu un mécanisme qui empêche de voir ta réalité. En fait, j'arrivais pas à connecter. Peut-être que je vivais du déni et en même temps, je le questionnais. C'est un peu comme obsessif. I'm not sick. I'm not sick. I'm not sick. I'm not sick. Mon père était malade à cette époque-là, puis je vivais des émotions très, très fortes. Il y avait beaucoup de mémoires d'enfance qui revenaient. Beaucoup de frustration à pas savoir, comme, ouais, j'avais pas de réponse, en fait, à mes questionnements, puis il y avait beaucoup d'incompréhension, de silence, de non-dit. Puisque j'étais une des personnes qui s'occupait de mon père pendant qu'il était malade, ben, moi-même, j'avais des répercussions psychologiques qui se reflétaient, comme, quand tu sais que tu vas perdre quelqu'un, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui te reviennent. Tu veux avoir des réponses parce que, ben, tu sais que tu vas peut-être bientôt pas les avoir, alors c'est très difficile à accepter. Puis moi-même, je vivais un processus de déni, ouais, de dépression, de trucs comme ça. Alors, puis je voulais pas en fait accepter que j'avais comme un impact psychologique qui m'appartenait. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses que je reprochais aussi à mon père de pas voir certaines réalités que nous on pouvait vivre. Fait que c'était un peu autant je questionnais son déni à lui. Puis que je questionnais aussi mon déni, puis comment c'était comme reliés au final. Genre, it's toxic, you know? C'est toxique, genre, il faut que j'arrive à l'exprimer, à l'extérioriser pour me permettre d'avancer vers autre chose. Le déni, c'est la première étape d'un processus de deuil. C'était aussi ça que je vivais.
Place à la deuxième discussion, avec Tania Lara Cazobon, qui elle aussi chemine sur le territoire de l'intime, qu'elle tisse et brode à sa guise au sein d'une cartographie malléable et sensible. Le lien aux autres est un élément central de son travail en textile, et l'artiste exprime à quel point le geste artisanal, répétitif et créatif ouvre la voie à l'espoir, à la connexion et à la mise en récit du monde.
J'ai toujours été plus proche de la musique que l'art visuel. J'ai joué du violoncelle. Je pense que la musique était comme un peu mon premier rapport à l'art. C'est un peu une erreur de parcours, je pense. En fait, je m'enlignais pour aller au cégep en sciences humaines. Puis ça comme a donné que j'accompagnais un ami qui voulait aller visiter les locaux d'art visuel. Vraiment, juste en visitant les locaux, j'ai fait comme « Eh ben, je pense que je vais faire un double deck ». Puis après, pareil, je m'enlignais pour peut-être étudiant en anthropologie, comme j'étais très attirée par le travail social, tout le travail comme d'intervention, travail de groupe. Puis finalement, je me suis comme enlignée sur l'art-thérapie. Je devais avoir des cours en art. Fait que là, j'ai fait mon bac en art, puis finalement, j'en suis plus ressortie. Comme il y avait toujours cet alignement premier d'avoir une pratique dirigée vers la rencontre et surtout par l'intérêt de vouloir travailler en groupe.
Fait qu'il y a toujours eu cette idée de participation, d'aller vers l'autre et pas de faire de l'art seul dans ton coin, clairement. Qu'est-ce qui t'a mené au textile?
Ben, encore une fois, c'est un peu un hasard. Peut-être que je suis quelqu'un qui... J'aime toujours ça parler de synchronicité puis de hasard. Puis, mais j'y crois vraiment, dans le sens que le textile est un peu arrivé dans ma vie à une période où ma dernière session universitaire, je l'ai fait à Bogota. J'avais comme pas l'espace d'avoir un atelier de peinture. Puis, ben, je me suis retournée vers le textile par son côté vraiment pratique. Puis j'ai comme graduellement commencé à me tourner vers « Ah, et si au lieu de prendre un canevas normal, je prenais un coton? » Puis « Et si je mélangeais deux types de tissus sur lesquels peindre? » Il y a toujours eu ce désir d'explorer par le textile. Parallèlement à ça, ma mère a toujours fait de la couture. On avait toujours une machine à coudre chez nous. Ma grand-mère était comme une style, elle a fait des centaines de courtes pointes. À Bogota, je suis tombée sur beaucoup de projets qui revendiquaient un peu un désir de reconstruire l'histoire du pays, mais à travers des projets textiles, et comme moyen d'aller chercher toutes sortes d'histoires de témoignages qui ont été invisibilisées pendant des années où la Colombie a été en conflit. Moi, je suis née au Mexique, de deux parents mexicains, mais de descendance européenne principalement. Mais mes deux parents sont nés au Mexique, ils ont vécu toute leur vie au Mexique, mais ma mère est moitié allemande, moitié mexicaine, mon père est français. Dans mon histoire familiale, il y a eu vraiment beaucoup de va-et-vient. Moi, j'ai grandi au Mexique sur une ferme. Ma mère travaillait beaucoup sur des questions environnementales de restauration de rivières. Puis, quand j'avais 7 ans, on a déménagé à Montréal. C'est sûr que ça fait en sorte que la question identitaire a toujours été comme un endroit de friction. C'est le classique de pas se sentir ni mexicaine ni québécoise. Mais en même temps, avec le temps, d'être capable de s'enraciner de plus en plus dans chacune des deux, puis d'ouvrir un peu tout ce qu'il y a entre. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol, puis j'ai appris le français en arrivant ici. Mais par exemple, mon espagnol a été un peu en péril aussi pendant une certaine période où est-ce que je le parlais moins, un peu par désir de s'adapter. Il y avait comme ce dédain de la langue. J'avais vraiment perdu la capacité de m'exprimer couramment en espagnol. Je pense que ça m'a choqué un moment de remarquer que j'étais en train de perdre une langue. Puis aussi, le fait d'avoir vécu un an en Colombie, ça a contribué vraiment à, pas seulement à faire récupérer mon espagnol, mais aussi à, c'était comme un contexte idéal où est-ce que j'étais en Amérique latine. J'étais, tu sais, je me retrouvais à quelque part, puis il y avait comme plein de repères. Mais c'était comme un nouveau terrain, un nouveau territoire sur lequel j'avais aussi la liberté, l'histoire finalement que je voulais raconter. Puis ça, je pense que ça peut être une richesse aussi de briser un peu la binarité entre comme pays d'origine, pays d'accueil.
J'ai comme l'impression aussi qu'en pensant à tes œuvres qui rendent visible un peu ce chemin identitaire à travers les espaces, à travers des, tu le disais, des pays ou des moments clés. C'est comme, c'est ça le concept de la cartographie est très, très présent dans ton travail. Tu t'en appropries les codes, tu les modifies aussi parfois. C'est toujours pour mettre en valeur des espaces habités, pour les interroger, pour leur conférer également une portée émotionnelle, donc de l'expérience, de l'historique de personnes ou d'une communauté. Comment c'est devenu ton sujet de prédilection? Comment ça s'est vraiment imposé à toi dans ton travail? Puis surtout, pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans?
Ben, je pense que c'est une relation que je continue vraiment à décortiquer. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'a tout de suite attirée dans la cartographie par sa capacité à révéler des histoires, puis aussi par un désir de contrer un peu la prétendue objectivité de la cartographie conventionnelle. Puis qui est à la base aussi ben, de toute une branche là qui est là de géographie critique, de cartographie radicale, de contre-cartographie, de géographie féministe aussi qui s'approprie beaucoup ces codes-là. Le premier projet un peu que j'ai travaillé avec la cartographie, c'était un projet que j'avais fait sur le corps avec une prof de dessin. Il fallait qu'on représente un espace intérieur. Puis moi, j'avais décidé de représenter mon utérus. Parce que à ce moment-là, j'avais des kystes, j'avais comme des enjeux de santé. Puis c'est ma prof qui m'avait passé un livre de cartographie. Ça m'a comme ouvert toute une série de portes. J'ai réalisé que je pense que j'ai une façon très spatiale de réfléchir. Puis ça m'aide vraiment beaucoup de spatialiser les choses, de schématiser les choses. Puis c'est pour ça aussi que c'est devenu un outil tellement, tellement, tellement puissant dans un sens. Puis avec tous les dommages collatéraux là qui sont associés à l'impérialisme et au colonialisme, mais il y a quelque chose de très puissant dans sa simplicité. D'une certaine façon, ça communique très directement des choses. On pourrait dire que c'est comme une espèce d'autre langage par les symboles, par les images.
C'est marrant parce que pour moi, les cartes, j'ai l'impression de les admirer depuis que je suis petite, d'essayer de comprendre comment tout est interrelié. Puis je me rappelle même avoir créé des cartes quand j'étais petite sur un grand tableau avec des craies. Il y a peut-être quelque chose d'attrait. Tu dis un petit peu, tu sais, c'est de l'ordre. On schématise les choses, on les voit. À la fois cartésien, mais en même temps un petit peu imaginatif. Et dont tu t'es emparé pour parler beaucoup justement des émotions qui sont associées à des lieux ou des mots-clés. Ou parfois il y a un dessin dans tes œuvres. C'est très... tu vas dans tous les sens. Là, tu te permets vraiment de mettre autant des mots que des dessins, que... des textures un peu différentes aussi parfois.
Oui, c'est ça. Je pense que après ça, je me suis vraiment accrochée à tout l'aspect narratif des cartes, puis toute leur capacité à raconter des histoires. Évidemment, en tenant toujours en compte que historiquement, c'est un outil qui a invisibilisé toutes sortes de choses par les intérêts des personnes qui les dessinaient. Mais c'est ça, en la renversant pour aller chercher des perspectives situées, des perspectives sensibles. Le simple acte de créer des cartes, ça a un impact sur l'espace, puis on peut voir directement comment les cartes telles qu'on les connaît ont créé aussi le monde tel qu'on le connaît, ont renforcé les frontières. C'est un peu de se réapproprier ces codes-là à une échelle vraiment personnelle puis intime. Puis que oui, en effet, je m'amuse beaucoup à tout mettre ça ensemble, tu sais, même si des fois ça fait quelque chose d'un peu chaotique. Mais qu'est-ce qui arrive quand on met, qu'on cartographie une partie du corps à côté d'une frontière nationale, tu sais, comme de jouer beaucoup à différentes échelles pour aussi essayer de générer des nouvelles histoires, des nouvelles relations, des nouveaux points de repère.
c'est quoi la définition de la contre-cartographie? Parce que moi, sincèrement, j'avais jamais entendu parler de ça. J'arrive à saisir un peu le fait de remettre en question toute cette création de frontières, cette manière d'organiser le monde. Et c'est sûr que ça émane souvent des mêmes groupes de personnes. Ça, j'arrive à le saisir. Mais c'est quoi techniquement? En quelques mots, là, tu peux nous l'expliquer?
Une définition que j'aime beaucoup donner, c'est de faire la cartographie du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. La cartographie conventionnelle, c'est historiquement fait d'un point de vue autoritaire en position de pouvoir qui imposait une façon de voir le territoire puis de comprendre et de vivre le territoire sur toutes sortes de personnes. Alors que si on renverse ça, c'est de partir vraiment d'une expérience personnelle. Si moi, je fais émerger ma propre cartographie, mais forcément, elle va rencontrer la tienne. Puis là, il y a comme des points de rencontre qui se créent, mais tout en maintenant un peu la singularité de chacun. C'est sûr qu'il y a l'aspect aussi de visibiliser des voix qui ont été historiquement marginalisées. On peut penser à beaucoup de communautés autochtones, notamment Inuit. C'est dans les premiers exemples de contre-cartographie. Donc, dans le cas des communautés autochtones, ben, c'est des revendications territoriales. Dans mon cas aussi, c'est de revendiquer, de considérer l'émotionnel dans la représentation spatiale. Ça vient dans un sens aussi comme redonner de l'épaisseur au territoire. Puis une épaisseur aussi qui fait en sorte qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les récits. Ça devient pas comme une surface cartésienne qu'il faut diviser. C'est grâce à l'espace qu'on est confronté à la rencontre, en fait, qu'on est comme confronté à l'autre, qu'on est dans un rapport de simultanéité, même avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Je veux pas me l'approprier parce que je sais que c'est une façon de travailler, puis toutes sortes de techniques, tu sais, de contre-cartographie qui sont hyper complexes, puis que j'ai pas nécessairement. Tu sais, des fois je le mets, des fois je le mets pas, des fois je dis que je suis artisan textile, des fois je dis que je suis artiste disciplinaire, puis je pense que ça rentre un peu dans mon malaise identitaire, si on veut. Tu sais, que on est tout le temps amené à devoir se définir par une espèce de liste d'épicerie quasiment, puis c'est vraiment pas pour dire que ces notions-là sont pas importantes, sont super importantes, mais je pense qu'il y a comme quelque chose à redéfinir dans notre rapport à l'énumération de différentes choses qui nous définissent. Cette semaine, je vais mettre à jour ma bio, puis à chaque fois, ça me perturbe. T'sais, à chaque fois, je suis comme, ah, bon, qu'est-ce que je suis, là?
J'arrive à comprendre pourquoi le textile s'est un peu imposé à travers ta réflexion, parce que c'est sûr qu'il y a une certaine versatilité, une fluidité, on peut broder dessus, on peut le froisser, on peut faire des courtes pointes comme faisait ta grand-mère, il peut prendre toutes sortes de formes, de couleurs. Donc, qu'est-ce que finalement le textile t'arrive à véhiculer avec la cartographie que t'arriverais peut-être pas en peinture, ou pourquoi au final ça devient ton médium?
Ça continue de m'étonner, en fait, à quel point c'est approprié pour communiquer un peu ce que je cherche à dire. Il y a l'aspect aussi vraiment délicat, poreux, qui laisse passer, tu sais, les différentes opacités de tissu. Il y en a qui laissent passer la lumière, il y en a qui laissent passer moins. Il y a comme une capacité à traverser, en fait, qui est comme constamment aussi exécutée par le geste de broderie. Il y a comme cet acte de tout le temps passer à travers d'un bord et d'un autre, puis dans le geste artisanal aussi, là, de répétition, de rythmique, qui vient comme trouver écho un peu avec cette idée-là, de marquer l'espace, de marquer les lieux. C'est un matériel qui pardonne beaucoup, qui permet de recommencer, de cacher, comme... c'est l'espèce d'erreur, puis d'essayer de réparer les erreurs, puis d'accumuler des couches, puis de... Il y a comme quelque chose qui me satisfait, puis qui me comble vraiment dans la capacité de générer un peu du chaos.
aimerais-tu nous présenter l'œuvre que tu vas exposer dans le cadre de Poste Invisible, dans l'exposition Tisser l'intime?
L'œuvre autogéographique 1, c'est une œuvre aussi qui a comme beaucoup évolué. À la base, je voulais mettre ensemble différents fragments de cartes auxquelles je m'identifiais. Donc, j'avais pris une carte de la STM de Montréal, une carte de mon village natal au Mexique, sur laquelle ma mère avait dessiné notamment pour un projet de restauration de rivière. C'est des cartes aussi que j'ai comme toujours un peu vues, avec lesquelles j'ai grandi. Elle allait marquer qu'il y a ici, puis les sauts et descend ici, puis les affluents, puis les bassins versants, c'est vraiment des cartes où on voit son écriture à elle. Puis bon, il y a comme des espaces transparents qui divisent les fragments de cartes, parce que je voulais mettre en valeur un peu tout l'espace qui se crée, qui est souvent invisible, mais tout l'espace qui se crée entre un territoire d'origine et un territoire d'accueil. Puis il y a comme tout ce flou duquel on parle pas souvent. Oui, c'est comme un espace qui est hyper important parce que t'es jamais complètement dans l'un ou dans l'autre. C'est un espace qui est comme vide, mais qui à la fois permet de respirer, selon moi. J'ai séparé chacun des fragments de cartes par comme des franges transparentes. Ça coïncidait avec un moment où ma mère avait des problèmes de santé. Donc, elle est restée chez moi pendant comme 2 semaines. J'étais un peu débordée, j'arrivais pas à terminer tout ce que j'avais à faire. Puis elle m'a offert de l'aide, elle m'a dit « est-ce que je pourrais t'aider avec quelque chose? » Puis elle brode super bien, elle a toujours travaillé le textile. Pour elle, le fait que je travaille à partir de ses cartes aussi, c'est sûr que c'est quelque chose qui la touche beaucoup. Donc là, on est comme venus ensemble à l'idée de connecter tous les cours d'eau par de la broderie. Le fleuve Saint-Laurent, qui venait se connecter par la petite broderie à une des rivières que ma mère avait restaurée. C'est devenu une œuvre très forte aussi pour elle et pour moi. De ma famille, c'est pour ma mère que le parcours migratoire a été le plus difficile. Fait qu'il y avait quelque chose de vraiment émouvant de l'avoir brodé ces rivières-là aussi dans un moment où est-ce que elle était comme plus en paix avec le fait de vivre ici, puis avec le fait de que les choses difficiles qui sont arrivées. Puis c'est ça l'histoire qu'il y avait à raconter par quelque chose d'aussi simple, tu sais, que de connecter différents cours d'eau par des petits points de broderie. À plus grande échelle aussi, c'est de voir que, tu sais, justement, l'eau qu'il y a dans le monde, c'est la même qui se recycle, c'est la même qui pleut ici puis qui revit là-bas. Fait qu'il y a aussi ce désir-là un peu de guérir des petites parties de nous par des éléments qui nous dépassent. Dans ce cas-ci, l'eau, tu sais, qui a un pouvoir aussi de guérison très fort et particulièrement pour ma mère qui avait vraiment, qui a dédié sa vie à la protection de rivières.
Avec cette série autogéographique, c'est sûr qu'elle part à la base beaucoup de toi, de tes expériences de vie, des lieux qui ont jalonné ton existence jusqu'à présent. Mais au début, tu me parlais notamment de ton grand désir d'aller vers les autres dans la création. Hein. C'est pas pour rien que tu voulais être art-thérapeute à la base. Mais donc, t'as fait pas mal d'art participatif. Moi, je me suis notée l'œuvre collective Utopia que t'as réalisée en 2019 avec une quinzaine de femmes en Colombie, à Bogota. Et en fait, vous avez créé ensemble, vous avez imaginé ensemble une ville féministe utopique, toujours grâce au textile. Est-ce que tu veux me parler à la fois de l'idée derrière ça, mais aussi du processus créatif à autant de mains sur un même ouvrage?
Oui, ça, je dirais que c'est vraiment mon premier projet de cartographie de façon collaborative. Donc, à ce moment-là, je m'intéressais aussi comme à l'architecture féministe, puis à l'urbanisme féministe, c'est comme tout un mouvement hyper intéressant, mais de noter à quel point, même dans l'architecture, même dans la façon dont nos villes sont conçues, le patriarcat fait partie de toutes ces sphères-là. Le truc le plus évident, c'est le nom des rues, c'est une nomenclature dans les villes, les parcs, les aéroports. La plupart, ça porte des noms d'hommes, souvent des colonisateurs. Parallèlement, j'ai commencé à travailler avec un organisme qui s'appelle Buena Semilla, dans un quartier très défavorisé de Bogota, pour inviter les gens du quartier à participer, puis à venir chercher des formations manuelles aussi pour pouvoir se trouver de l'emploi plus facilement. Donc moi, j'ai commencé à travailler un peu avec eux, puis là, j'ai connu un groupe de femmes qui étaient très impliquées dans l'atelier de textile, puis bon, on a commencé à se lier d'amitié. J'ai suggéré l'idée de juste comme s'imaginer ensemble de quoi aurait l'air une ville féministe. Tu sais, on a lancé toutes sortes d'idées. Bon, évidemment que tous les noms des rues, ce soit des femmes, des femmes qui avaient aussi été un peu effacées de l'histoire, des femmes qui avaient eu des parcours super importants, qui avaient lutté pour la santé, pour le droit des femmes, pour toutes sortes de causes. Ça, c'était le fun, parce que ça a comme obligé aussi à une partie un peu de recherche. Après, il y a eu l'idée que ce soit une ville qui soit autosuffisante. Donc, il y a 13 potagers. Fait qu'en tout cas, il y a eu vraiment beaucoup de réflexions, beaucoup de... Mais au final, ben, on n'a pas refait le monde, mais il y a aussi beaucoup de partage, juste créer des espaces où est-ce qu'on peut parler, tout en ayant une aiguille à la main. Évidemment, on sortait un peu de la thématique de la ville féministe utopique. On parlait de toutes sortes d'enjeux qui sont liés au corps, à la santé, à l'alimentation. Et c'est ça qui est beau aussi des projets un peu collaboratifs, c'est que c'est intense, puis ça prend des fois beaucoup de temps, mettre l'idée en place, prévoir les rencontres, mobiliser les gens. Mais une fois que ça s'est fait, c'est comme il y a comme une rapidité qui s'installe, puis il y avait 12 personnes, donc 24 mains en même temps sur un tissu. Après, il y avait des enjeux de logistique. C'est super intéressant aussi de voir quel genre de place chaque personne prend autour du tissu. T'sais, il y a des gens qui s'imposaient plus, il y a des gens qui brodaient juste des fleurs dans le coin.
Il y a le côté aussi de faire certains consensus pour accepter toutes les réalités, puis aller se mettre à l'intersection de toutes ces villes-là, parce que ce qu'on entend par ville féministe utopique, il y a autant de personnes que d'interprétations de c'est quoi cette ville-là. Fait que si je comprends bien cette cartographie, oui, non seulement elle te permet de cartographier, de cristalliser des moments, des symboles, des choses qui ont existé, mais ça peut être aussi une manière de se projeter, puis même d'avoir de l'espoir aussi de co-créer puis de co-imaginer à plusieurs qu'est-ce qu'on aimerait voir dans le monde.
Oui, vraiment, merci de le nommer. Comme je disais, il y a vraiment quelque chose dans l'acte de cartographier quelque chose, se permettre de vouloir soit que les choses soient autrement, de construire autrement, puis je pense profondément que ces gestes-là, ces moments-là de rencontre, ils font pas juste rester sur papier ou sur tissu, ça a un impact.
Vous venez d'écouter Sous la fibre, un podcast créé et réalisé par Claire-Marine Béat. Les musiques originales sont signées Juliette Béat et Yvan Vindray. Les musiques additionnelles sont toutes sous licence libre de droit. Les détails se trouvent dans la description de l'épisode. Un immense merci aux artistes pour leur partage, ainsi qu'à Mylène pour son retour sur le balado. Pour m'aider à faire rayonner le podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, ainsi qu'à vous abonner à l'infolettre qui vous offre plus de contenu sur l'art visuel et la créativité, en plus d'un petit accès aux coulisses du podcast. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Un lien se trouve dans la description de l'épisode. Merci, à bientôt.